RCF.
Nous avons vu avec vous, Catherine Rollet, que le Moyen-Âge est très marqué par la christianisation. La période moderne, à partir donc du XVIe siècle, apporte là aussi de grandes nouveautés, ne serait-ce que sur le plan des sciences. Et sur le plan sociétal, les choses bougent aussi beaucoup.
Alors évidemment, tout ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge n'est pas effacé comme ça du jour au lendemain à partir du 15e, 16e siècle. L'Église reste puissante, mais on voit des contestations puisque la réforme intervient à ce moment-là. Donc on a à la fois le prolongement de cette société très christianisée et en même temps des nouveautés. Je trouve que l'exemple de Vincent de Paul est très illustratif de cette évolution. C'est à la fois un prêtre au XVIIe siècle, mais avec des femmes, dont Louise de Marillac, par exemple, il va accueillir de façon décente les enfants abandonnés à Paris. Ce qui va aboutir à une institution créée et entretenue, financée par Louis XIV, par le gouvernement, qui devient l'hospice des enfants trouvés. Là, il y a véritablement un processus d'investissement de l'État dans la prise en charge des orphelins. Et donc cette institution a un tel succès que les abandons malheureusement se multiplient au XVIIe siècle, au XVIIIe et encore au XIXe siècle.
Mais peut-être que du coup l'infanticide dont vous aviez parlé pour l'Antiquité,
oui, l'infanticide régresse. Il est puni, il est rare, il est devant les tribunaux, on voit des cas d'infanticide.
Mais il y a une alternative, disons.
Il y a une alternative qui est l'abandon institutionnalisé. Et là, l'innovation, c'est que Vincent de Paul, véritablement, veut non seulement baptiser ses enfants, mais aussi les faire grandir, les faire survivre. L'enfant devient un enjeu sociétal. La nation, en quelque sorte, a besoin que ses enfants vivent. L'enfant sera un soldat, un citoyen, un paysan, un producteur. Or, l'État qui se développe, l'État qui renforce son industrie, son commerce, a besoin de main-d'œuvre. Et c'est une pensée fortement développée au XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle. Et aussi les médecins. Les médecins commencent à jouer un rôle important dans nos sociétés occidentales. Un grand traité par un Français qui s'appelle Morisseau porte sur les accouchements et on parle dans ce traité des enfants en mauvaise santé à la naissance. Ils commencent à dire ce qu'il faut faire pour sauver l'enfant. Plus tard, au XVIIIe siècle, alors, des médecins d'enfants qui ne sont pas encore des pédiatres se penchent sur cette partie de la médecine qui avait été quelque peu escamotée. Et alors, on a une prolifération dans toute l'Europe occidentale de traités avec évidemment des conseils qui peuvent prêter à sourire pour mieux nourrir, élever les enfants. Jusqu'au traité, qui est un traité plutôt d'éducation, de Jean-Jacques Rousseau en 1762, l'Émile. L'Émile marque un tournant dans la manière d'appréhender l'enfant dès sa naissance et pendant toute sa jeunesse. Véritablement, l'enfant peut et doit être éduqué en quelque sorte.
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme qui s'élève en priant. L'enfant paraît. Adieu le ciel et la patrie, et les poètes saints. La grave causerie s'arrête en souriant.
La suite de l'histoire.
Alors cette éducation, elle passe par quoi ?
Alors, elle prend différentes formes, selon le milieu social. On est toujours dans des sociétés extrêmement clivées. Donc, dans l'aristocratie, il y a deux modèles. Soit les familles peuvent faire venir un précepteur, une gouvernante pour les filles, soit, de plus en plus, les familles envoient leurs enfants en pension. Envoyer son enfant en pension, c'est se séparer de lui pendant plusieurs années, avec des visites très, très épisodiques, Je connais le cas, par exemple, d'une famille française qui habitait La Réunion. Le père était planteur à La Réunion. Il envoie ses enfants dans un collège dans les Pyrénées qui s'appelle Sorèze. Et les enfants ne voient leurs parents que tous les 2 ou 3 ans.
Mais on est à quelle période là ?
18e. 18e. Donc, l'enfant de lumière, c'est un enfant observé, scruté, pour lequel on a des préoccupations pédagogiques et médicales, mais c'est aussi très souvent un enfant séparé de ses parents. Ça, c'est pour les milieux qui peuvent se permettre ces pensions, ces précepteurs. Pour les paysans, il y a un commencement d'effort systématique d'école primaire, en quelque sorte, pour apprendre à lire,
un
écrire, compter.
Un minimum de culture.
Un minimum, le béaba, en quelque sorte.
Ceci dit, les travaux des champs occupent
oui,
et donc l'essentiel du temps et voilà, de l'énergie des familles voilà, et des enfants.
Voilà, exactement. Cette scolarité était épisodique. Pendant tout l'été, il n'y avait plus rien. On appelait ces écoles les petites écoles. Alors, c'est un enseignement peut-être un peu bon enfant, c'est-à-dire qu'il y avait un maître qui apprenait à l'un à écrire, à l'autre à lire, etc., dans une petite salle financée par la paroisse.
Est-ce qu'il est vrai, Catherine Rollet, que pendant que les parents allaient au champ pour travailler dans les milieux paysans, milieux ruraux, on accrochait les bébés en hauteur pour pas qu'ils se fassent dévorer par les rats?
Peut-être pas par les rats, mais par les cochons. Oui, on a dit ça, et peut-être que ça a été... On essayait quand même de protéger les enfants. On les mettait souvent, en effet, dans des hottes qui les protégeaient du froid, etc.
En hauteur,
bon,
alors?
Pas alors, forcément. Est-ce que vraiment on accrochait? Oui, j'ai vu des représentations comme ça. Ça a dû exister, en effet. Mais c'est pas pire que ce qui se passera après, où on mettait l'enfant dans son berceau, on le laissait toute la journée avec un biberon au 19e. C'était des méthodes qui nous paraissent totalement aberrantes ou barbares, mais c'était des pratiques, en quelque sorte, qui répondaient à des nécessités vitales. Les parents avaient absolument besoin de gagner de l'argent. Et il fallait trouver des solutions quand il n'y avait pas de grand-mère. Mais souvent, à cette époque-là, 17e, 18e et même début du 19e, les mères emmenaient partout avec elles leurs nourrissons. Elles apportaient le couffin, elles le posaient à côté d'elles et elles allaient laver à la rivière du linge. J'ai une photo comme ça, une représentation. Ça.
Oui. Alors justement, sur un plan pratico-pratique, le berceau existe, évidemment,
oui.
Les couffins.
Oui. On appartient, l'Occident, à ce que on appelle les pays à berceau. Il y a des pays à berceau dans le monde et des pays sans berceau. Et on fait partie de cette ère-là. Les enfants de l'Antiquité d'hier ont des berceaux, d'abord tout petits, de leur taille, et ils sont relativement ficelés là-dedans. Justement, toujours dans une forme de protection. On a progressivement donc des bercelonnettes qui se balancent. Ce qui commencera à être discuté au XVIIIe siècle, justement. Faut-il bercer les enfants ? Grand débat. Alors, les uns sont pour, les autres sont contre. Ils disent que ça va donner des convulsions à l'enfant, que ça va lui faire prendre de mauvaises habitudes. Enfin. Et puis, il y en a d'autres qui disent, une petite chanson, un petit bercement ne fait pas de mal à un enfant.
L'enfant est langé ?
Oui, l'enfant continue, tout petit, à être langé, comme au Moyen-Âge, de façon plus libre quand même. Les bras ne sont plus collés le long du corps et entourés par le linge. Après les célèbres tableaux de Latour, on voit ce bébé encore très serré dans ses langes. Non, au 18e, progressivement, les bras sont à l'extérieur du linge et dès qu'il commence à marcher, le bébé a une sorte de petite robe. Rien sur les fesses d'ailleurs, comme ça il peut faire ses besoins partout, dans la cour, etc. Bon, il n'y avait pas de couche hein, à l'époque.
Les filles et les garçons sont habillés de la même manière à l'époque moderne, semble-t-il.
Tout petit,
en robe.
Les enfants, évidemment, sont habillés pareil, avec le même maillot. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, 6-7 ans, les garçons et les filles sont en robe. Ceci dit, on peut distinguer les garçons et des filles à des détails.
Alors, quels sont les secrets? Dites-nous.
Le secret, c'est que les robes, par exemple, des garçons sont boutonnées devant et les robes des filles sont boutonnées derrière. les robes des garçons ressemblent plutôt à des jaquettes. Autre détail, on n'a pas tout à fait les mêmes cols. Surtout, alors, les peintres, pour bien distinguer les garçons des filles, munissent chaque sexe des jeux de son genre. On reconnaît que c'est un garçon parce qu'il joue avec un tambour. On reconnaît une fille parce qu'elle a une poupée.
Et déjà
donc, oh oui, oui. Mais les poupées ont existé de tout temps, à vrai dire. Au XVIIIe siècle, cependant, il y en a deux sortes. Il y a des sortes de poupées bébés, en tissu, en chiffon, ou bien des sortes de poupées mannequins qui sont des initiatrices de la mode avec lesquelles jouent, en quelque sorte, les jeunes femmes. Elles s'initient à la mode à travers des poupées mannequins et habillées à la dernière mode.
La Révolution française, Catherine Rollet, pour terminer, apporte des changements notables dans la manière dont on considère l'enfant.
Oui, certainement. La Révolution française a eu un grand rôle dans les représentations, tout simplement parce qu'elle a mis à mal le système antérieur, avec domination du clergé et de la noblesse, et elle a essayé de donner à différents groupes de la population, notamment les mères célibataires, et donc les enfants illégitimes, les enfants tout court, une place reconnue. Et on lui reconnaît une sorte de droit à être nourri, à être élevé. Et l'espoir des révolutionnaires était que tous les enfants puissent aller à l'école, que tous les enfants puissent être nourris convenablement par leur mère, et donc il fallait subventionner et donner des allocations aux mères pauvres. Malheureusement, pour différentes raisons, tous ces idéaux n'ont pas toujours été réalisés au moment de la Révolution. Mais ces idéaux, finalement, vont être réalisés progressivement pendant le XIXe siècle, et notamment sous la Troisième République.
À demain pour en parler. Merci beaucoup, Catherine Rollet.
Merci.